Comment vont les fourmis ? Une émission sur l'économie sociale et solidaire, un vendredi par mois, de 12h à 13h.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Comment vont les fourmis, la mensuelle de Jet FM dédiée à l'économie sociale et solidaire. Une émission en partenariat avec l'autre radio, radio associative de la Mayenne à Château-Gontier. Jet FM et l'autre radio font partie de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, et en partenariat également avec le webzine Terre Histoire, une émission réalisée par Anne-Laure Lejaune. Le revenu inconditionnel de base, un revenu pour tous de la naissance à la mort, eh bien c'est la question que nous poserons aujourd'hui. Et si chacun recevait un revenu qui lui permette de vivre sans être obligé de travailler, serait-ce la solution dans nos sociétés où le plein emploi n'est plus roi, un moyen de permettre à chacun de choisir son emploi, de s'impliquer dans des associations. 300 000 personnes environ ont signé une initiative citoyenne européenne qui va dans ce sens, c'était à la fin de l'année 2013. C'est une idée, ce revenu de base, qui pose de nombreuses questions quant au financement, au changement induit dans nos sociétés. Alors les fourmis vont chercher à comprendre cette idée ancienne et évoquée pour la première fois, c'était pas hier, c'était en 1516 par Thomas More dans son ouvrage Utopia. Alors d'où ça part cette idée? Eh bien de Thomas More, on vient de le dire, mais aussi du constat qu'aujourd'hui en Europe, l'austérité est la seule réponse à la crise. Regardez un peu ce qui se passe en Grèce. Paradoxalement, notre société n'a jamais autant produit de richesses. Ce pourrait être une bonne nouvelle, sauf qu'avec la financiarisation de l'économie, cette richesse n'a jamais autant été mal partagée. Paradoxe d'une production et d'une productivité en hausse exponentielle, avec un chômage galopant et ravageur. Alors entrons dans le vif de notre sujet. Le revenu de base, c'est quoi? Alors d'ailleurs, revenu universel de base, revenu inconditionnel minimum de base, revenu de base, etc., etc. On s'accordera peut-être sur les expressions. Alors on pourrait dire qu'il peut s'appuyer sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, article 25, j'ouvre les guillemets. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux, le logement, ainsi que les services médicaux nécessaires, fermez les guillemets. Revenu inconditionnel, on verra pourquoi individuel est suffisant pour assurer une vie digne. Bon, ça c'est une version de ce revenu de base, il en existe d'autres plus libérales et moins inconditionnelles. Alors les effets attendus, éradication de l'extrême pauvreté, ça c'est pour la version pas libérale, encouragement des activités non marchandes. Alors c'est également une mesure économique car certains prônent que ce revenu associé à des monnaies complémentaires ou citoyennes pourrait permettre de soutenir des entreprises locales permettant ainsi l'exercice d'une pleine citoyenneté. Devant la perspective de ce nouveau droit fondamental, une des questions qui se posent et non des moindres, c'est celle de son financement. Alors certaines pistes peuvent être pointées, financement des transactions financières et des hauts revenus, TVA sur les produits de luxe et polluants. Il y a d'autres pistes. Voilà, l'idée est simple dans son énoncé, plus complexe dans sa mise en œuvre, mais cette idée, c'est que chacun reçoive un revenu de base, même sans l'avoir demandé, ça c'est l'inconditionnalité, libre à chacun de conserver son emploi, de le réduire ou de laisser sa place à un chômeur. Bonjour Julie.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Julie, voilà le cadre posé de cette émission et avec nos invités, nous allons essayer de prendre des repères, de préciser ce qu'est ce revenu de base, ses potentialités, ses difficultés de mise en œuvre. Il y en a, voilà, des invités que je te laisse le soin de nous présenter.
Alors, nous avons trois invités aujourd'hui pour cette émission. Alors d'abord, Rémi Segret du collectif nantais du mouvement français pour un revenu de base. Également, Romain Gilbert, qui a été candidat sur la liste Europe Écologie Les Verts au municipal à Bouguenay, juste à côté de Nantes. Également, Lionel Proutot, professeur d'économie à l'Université de Nantes, spécialiste du monde associatif. Alors du coup, on vous retrouvera un peu plus tard dans l'émission pour parler, comme vous l'évoquiez Pascal, toutes les conséquences que pourra avoir un revenu de base dans le monde associatif, l'économie non marchande. Mais d'abord, on va parler de ce revenu de base, revenu de base à vie, revenu d'existence, revenu universel. Beaucoup de formules pour des approches assez différentes. Alors, je propose de commencer par vous, Romain Gilbert. En tant que, avec votre étiquette Europe Écologie Les Verts, c'est quoi un revenu de base ?
Donc, un revenu. Bonjour déjà.
Bonjour. Ouais.
Un revenu de base, donc c'est un revenu, donc son nom l'indique, qui permet à toute personne, de la vie à la mort, de pouvoir subsister à ses besoins de base. Donc c'est se nourrir, se vêtir, se loger, se déplacer, s'informer et se soigner.
Donc finalement, c'est répondre à cette exigence donc de la déclaration, l'extrait qu'a lu tout à l'heure Pascal.
Voilà, exactement. Oui.
Alors justement, concrètement, comment est-ce que ça peut fonctionner? Rémi Segret, donc du Mouvement français pour un revenu de base, ça veut dire quoi? Ça veut dire un revenu pour tout le monde? De quel montant? Ce serait quoi un petit peu le prototype que vous avez en tête au sein du collectif?
Alors dans l'association donc, du revenu de base, le MFRB, le Mouvement français pour un revenu de base, au niveau du montant, notre positionnement, c'est qu'on justement, on ne se positionne pas sur un montant fixe, parce que pour nous, c'est en fait... C'est l'idée que c'est une communauté politique qui décide démocratiquement de donner le revenu de base à ses membres. Du coup, on ne se positionne pas sur un financement, c'est à la communauté politique qui le met en place de se positionner sur le financement. Bon, après, nous, entre nous, on aime bien donner le chiffre de 1000 euros parce qu'on trouve que ça parle à tout le monde. Voilà, on a fait des petits flyers avec des billets de 1000 euros qu'on distribuait pour faire parler de l'idée. Voilà, donc imaginez 1000 euros qu'on donnerait à tout le monde de la naissance à la mort. Voilà, 1000 euros, je pense que ça pourrait suffire. C'est au-dessus du seuil de pauvreté, ça permet d'avoir un minimum de logement, d'être un minimum inséré aussi dans la société pour même tout simplement aller au cinéma, boire des coups, c'est ce qui est quand même important, mais du coup, ne pas avoir besoin d'avoir une activité contre rémunération.
Donc vous disiez 1000 euros au-dessus du seuil de pauvreté qui est aux alentours de 950 euros, également un revenu pour tout le monde sans condition?
Oui, bien sûr. Oui.
Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière sans condition, ça veut dire qu'on s'éloigne largement de ce qu'on connaît avec le RSA, les indemnités chômage. Il n'y a pas de papier à remplir, rien. Automatiquement, on a de l'argent, sans rien faire.
Tout à fait, dès qu'on est.
Alors, cette version-là, tout le monde n'a pas cette version-là des choses en tête. On va écouter un extrait de Dominique de Villepin. Il était invité aux 20h de France 2, c'était en février 2011, avant l'élection présidentielle. Vous allez entendre sa proposition et par avance, désolé pour la qualité sonore.
Je suis pour que l'on propose aux Français un revenu citoyen qui sera proposé à tous ceux qui vivent dans la difficulté, au seuil de pauvreté, un revenu de 850 euros qui permettra justement, de façon dégressive, de garantir la dignité des Français. C'est une nouvelle approche.
Alors justement, on est là sur un autre montant, 850 euros, on est donc là sous le seuil de pauvreté. Et un autre élément à savoir sur le projet de Dominique de Villepin qu'il n'a pas dit dans cet extrait sonore, c'est que lui, il appelle ça un revenu citoyen, c'est-à-dire qu'il y a une contrepartie, c'est-à-dire obligation de vote et d'implication dans les associations et autres structures non marchandes. Vous êtes d'accord avec cette approche, Romain Gilbert?
Non, moi je suis pas trop d'accord parce que la grande force du revenu de base, c'est son inconditionnalité. Parce qu'actuellement, les systèmes d'aide existent. On s'aperçoit que ça ne lutte pas forcément très. C'est pas une bonne solution pour lutter efficacement contre la pauvreté, parce que c'est une gestion très difficile. Il faut contrôler. Ça stigmatise les citoyens qui en font la demande. Il y a une majorité des citoyens qui ne savent pas qu'ils ont le droit à ces aides. Il n'y a que 50% quasiment des aides qui sont vraiment distribuées. Donc l'inconditionnalité, c'est vraiment, je trouve, un point très très important.
Pour autant, la version revenu citoyen de Dominique de Villepin, la conditionnalité est assez simple. En l'occurrence, a priori, on pourrait se dire, bon, on n'est pas dans des choses concrètes, mais on pourrait se dire, il suffit d'être inscrit sur les listes électorales, de prouver qu'on a voté, de montrer sa carte d'électeur, et puis c'est bon. Et en même temps, ça permettrait de rendre le pays, d'assurer une question de la vivacité démocratique. On parle beaucoup des taux d'abstention, au moins les gens seront obligés de s'impliquer, ça pourrait être très bien.
C'est une contrepartie. Le revenu de base, c'est aussi de la naissance à la mort. Donc les jeunes qui ne votent pas, comment contrôler aussi voilà, c'est encore mettre en place des contrôles. Ça s'éloigne quand même de l'inconditionnalité.
Et alors vous, justement, Rémi Segret, je vous vois en train de sourire quand je vous parle de cette vivacité démocratique. Vous n'avez pas l'air emballé par le projet de Dominique de Villepin, là.
Oui, non, pas du tout. Donc, voilà, l'intérêt du revenu de base, justement, c'est qu'on arrête de contrôler les gens et qu'on leur donne de quoi vivre dignement, sans aucun contrôle. Pour nous, c'est vraiment hyper important. Et puis, donc voilà, après, moi, la vie associative, je la trouve vraiment géniale. national, et j'espère que le revenu de base, ça favorisera énormément le travail libre et le travail militant associatif. Par contre, alors là, sur l'obligation d'aller voter, moi, ça me fait doucement rire, évidemment.
Pourquoi?
Surtout, déjà parce que je considère pas que le vote c'est la démocratie. Après, je pense que c'est pas forcément le sujet de l'émission, mais voilà, pour moi, le vote c'est absolument pas la démocratie.
Il y a un slogan, hein, c'est élection piège à con.
Oui, voilà. Donc, pour moi, obliger des gens à aller voter, pour moi, c'est vraiment ridicule. Et l'abstention, pour moi, ça reste une vraie force de démocratie.
Alors, il y a une autre version du revenu de base qui s'appellerait allocation universelle, amenée par Christine Boutin, où là, l'idée serait un revenu inconditionnel pour tous les Français, voire les étrangers résidents sur le territoire, qui serait de 400 euros pour les mineurs et 800 euros pour les majeurs. Là, à nouveau, même question, ça semble assez proche de ce que vous dites. Finalement, ce serait à peu près pour tout le monde. Bon, le montant serait pas assez élevé.
Oui, pourquoi pas, effectivement, le montant n'est pas très élevé. Après, il faut voir, en fait, c'est complexe, en fait, l'idée du montant, parce que qu'est-ce qu'on garde réellement? Si on met 800 euros et qu'on garde les APL logement, par exemple, ça peut être assez intéressant, parce que...
Ah non, parce qu'un petit point que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'effectivement, Christine Boutin, la contrepartie de ce revenu de base, c'est qu'il n'y a plus d'allocation familiale.
Donc ça veut dire qu'on détricote complètement toute la protection sociale derrière.
Donc voilà, faut faire attention effectivement à ce qu'on met derrière. Donc moi j'ai pas énormément travaillé sur la question du revenu de base proposé par Christine Boutin. En tout cas moi je l'ai pas vue à l'Assemblée générale du MFRB, donc je suis désolé, elle est invitée évidemment comme toute citoyenne. Donc voilà, nous par exemple au niveau des protections sociales, il est clair pour nous tous que par exemple la sécurité sociale serait maintenue si un revenu de base existait, parce que voilà, les frais médicaux c'est quelque chose d'à part du revenu de base, par exemple. Donc,
parce qu'il y a aussi ce qu'on entend dans certains promoteurs du revenu de base. Alors, on voit bien qu'il est, protéiforme. Il y a plusieurs versions. C'est que, OK, un revenu de base, il faut s'entendre un peu sur les montants. Là, on navigue entre 400, on entend 1500, des fois 1800 euros. Mais derrière, tout ce qui est alloc et compagnie, ça disparaît et tout ça est concentré dans ce revenu purement. On entend ça également.
Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les aides qui sont aujourd'hui allouées et qui, en fait, n'auraient plus lieu d'être, puisque, effectivement, les gens en toucheraient même plus. On pense au RSA, évidemment, mais peut-être aux APL, si le montant du revenu de base est supérieur à 1000 euros. Voilà, il n'aurait plus lieu d'être. Donc, évidemment, c'est un package commun, entre guillemets, mais effectivement, il y a des choses auxquelles on ne touche pas, comme je l'ai dit, la sécurité sociale. Mais après, il faut aussi dire que du coup, nous, au Mouvement Français pour le Revenu de Base, notre politique, c'est de dire que la communauté politique qui veut mettre en place le revenu de base, c'est à elle de juger démocratiquement de comment on le met en place. Donc nous, on ne se positionne pas énormément sur ces sujets-là non plus. Nous, on veut vraiment porter l'idée du revenu de base. Bon, après, on est en train d'écrire une charte au niveau de l'association pour pouvoir quand même se positionner sur un certain nombre de sujets qui peuvent faire peur à quelques personnes. Par exemple, sur le SMIC, nous, il est clair que pour nous, le SMIC, il doit être maintenu à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui, et que du coup, on n'est pas sur une idée de on va mettre un revenu de base en place, mais à côté, on casse les acquis sociaux et on met un SMIC de misère pour en fait faire de l'emploi précaire.
Mais si le revenu de base est en place, le SMIC disparaît puisqu'on aura 1000 ou 1500 euros.
Non, parce qu'il est cumulable avec un emploi.
Ah, c'est cumulable.
Ah oui, c'est très important. Oui, ça c'est très très important finalement de le signaler. Le revenu de base est en place, il est cumulable avec l'emploi. Ceux qui veulent garder leur emploi, ils le gardent. Il y a aucun souci là-dessus.
Alors, vous parlez de communauté politique, en termes d'étiquette politique, je voudrais vous poser la question. Romain Gilbert, vous avez l'étiquette Europe Écologie Les Verts. On a évoqué le projet de Dominique de Villepin, de Christine Boutin.
Plutôt à droite, les deux. Hein.
Oui, effectivement, quand même, plutôt.
Bien à droite pour Christine.
Mmh. Et du coup, avec des valeurs différentes, et on se dit, ce revenu de base, il y en a des approches différentes. Est-ce que c'est un concept de droite, de gauche, chacun en fait ce qu'il veut?
Le revenu de base, il y a effectivement les libéraux qui s'en sont emparés avec les aspirations qu'on connaît. Eux, c'est on donne un peu à tout le monde et puis bon, après, débrouillez-vous. Et puis ça permet de rogner sur les aides, sur l'étatisation en fait, des aides.
C'est-à-dire couper tout ce qui est prestations sociales et acquis sociaux qu'on évoquait à l'instant.
Voilà, oui. C'est un peu à un moment donné ce qu'ils voulaient faire au niveau de l'éducation. Hein. C'est donner un chèque éducation, puis débrouillez-vous pour mettre vos enfants dans une école privée. Et voilà, il y a un peu cette idée, à mon avis, derrière l'idée de Christine Boutin, ça doit être peut-être un petit peu ça. Sinon, pour Europe Écologie Les Verts, nous, on est très attachés aux libertés individuelles, à l'égalité. Et l'idée d'un revenu de base aussi est très intéressante au niveau écologie. C'est que les personnes ne seront pas obligées de courir après n'importe quelle activité, quitte à inventer des activités qui détruisent la planète, qui détruisent les humains, pour vivre.
Parce que justement, c'est derrière cette question-là du travail, finalement, on y arrive, parce qu'évidemment, c'est central. Si on a tous un revenu de base, mettons 2000 euros au-dessus du seuil de pauvreté, est-ce que les gens vont arrêter de travailler ? Tout simplement, tout le monde va partir en vacances, plus de production, plus de PIB, plus de croissance, c'est la fin du monde. Rémi Segret.
Oui. Alors déjà, il faut distinguer, en fait, faut faire un petit peu de définition. Donc le travail, nous on distingue vraiment le travail et l'emploi. L'emploi, donc, c'est ce qu'on fait contre une activité qu'on fait contre rémunération. Et le travail, ça peut être l'emploi fait partie du travail, mais ça peut être aussi élever ses enfants, travailler la guitare, travailler à l'école. Voilà, le travail, c'est aussi tout cela. Et du coup, effectivement, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, en fait, c'est cette espèce de religion de l'emploi qu'on a, que je ne comprends pas. C'est l'espèce de croire que justement en faisant baisser le chômage, avoir plus la dette se
résorbera.
Merci, c'est un peu difficile. Voilà, en fait, il y a une étude qui a été faite par trois Anglaises et qui montre en fait l'impact économique que l'emploi peut avoir. Parce qu'en fait, on pense que finalement, on a un emploi, on paye un impôt et du coup, on donne de l'argent à l'État. Mais finalement, l'emploi qu'on exerce, il a un impact sur la société et qui peut être négatif pour l'État. En fait, les exemples, c'est du coup, ils ont pris à peu près tous les emplois qui existaient. Ils ont ces trois Anglaises ont fait un rapport économique. Et donc, ils montrent par exemple qu'un conseiller fiscal, pour 1 euro produit, il fait perdre 42 euros à l'État. Un cadre en publicité, pour 1 euro produit, il fait perdre 10 euros à l'État. Parce qu'en fait, c'est ces gens qui exercent un emploi, même s'ils payent des impôts, l'impact que leur emploi a sur la société, en fait, fait perdre de l'argent à l'État. Parce que finalement, un conseiller fiscal, son but, c'est quand même de faire évader des gens fiscalement.
C'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, hein, d'ailleurs.
Voilà, l'optimisation fiscale. Donc en fait, faut pas penser que les gens qui ont un emploi, en fait, font gagner de l'argent à l'État. Et au contraire, il y a des gens qui n'exercent pas d'emploi ou qui font du travail libre, qui donnent de l'argent à l'État et qui font un travail qui est prolifique.
Alors justement, quand vous dites la notion justement de travail libre, finalement, ce serait, si je comprends bien justement, c'est que tout le monde ait un revenu finalement en reconnaissance de soi, de son travail sous forme d'emploi, occupé CDI, CDD comme on connaît, comme le travail fait à la maison, les tâches ménagères, aider la voisine qui est personne âgée, etc. C'est ça que vous voulez dire?
Exactement.
Bah, ça va vous faire plaisir parce que Christine Boutin a l'air de partager à peu près votre point de vue. Elle était l'invitée de l'émission Du grain à moudre sur France Culture, présentée par Hervé Gardette en décembre 2013.
Le revenu de base n'empêche pas l'allocation chômage si on n'a pas de travail. C'est pas du tout ça. Quand vous parlez du problème des salaires maternels, parce qu'on prend cet exemple des femmes parce qu'elles élèveraient leurs enfants et que c'est pas à la mode en ce moment. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas cette reconnaissance? Mais on peut prendre tout un tas d'autres activités bénévoles qui ne sont pas aujourd'hui reconnues par la société et qui pourtant apportent du capital social très important à l'ensemble de la société. Et c'est justement par ce revenu de base qu'il y aurait la reconnaissance de toutes ces activités bénévoles qui aujourd'hui ne sont pas reconnus. Alors il y a celles qui décident d'élever leurs enfants, mais il y a ceux qui s'occupent d'associations et qui n'ont aucune reconnaissance. Et dans ce revenu de base, quel que soit son montant, il y aurait la reconnaissance de cette utilité sociale qui aujourd'hui n'est pas reconnue parce qu'il n'y a qu'effectivement que le salaire. On a l'impression en France qu'il n'y a que le salaire qui donne la dignité. Une personne qui n'a pas de salaire en France n'est pas digne. Eh bien si, une femme, un homme est digne parce qu'il existe, qu'il ait un salaire ou qu'il n'en ait pas, qu'il ait un emploi ou qu'il n'en ait pas. C'est ça la philosophie du revenu de base. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je dis que c'est une révolution culturelle. Il faut laisser tomber l'histoire du travail. Ça n'a rien à voir. C'est lié à la personne, sans condition. C'est inconditionnel et c'est universel.
Alors justement, un petit mot, Rémi Segret, vous êtes à peu près d'accord avec ce que vient de dire Christine Boutin, a priori?
Oui, complètement, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit à ce moment-là.
Alors, sur la notion de... Oui, excusez-moi, Romain Gilbert.
Moi aussi, c'est bizarre de se trouver en accord avec Christine Boutin. Par contre, j'ai relevé une petite chose, elle a dit « celle qui veut rester à la maison ». Et pourquoi elle n'a pas dit « celui ou celle » Parce que Bon, là, c'est un peu sa conception chrétienne de la société. Mais c'est vrai que c'est, voilà, sur ce qu'elle a dit, je suis d'accord.
Alors justement, sur la notion de valeur travail et finalement de reconnaître simplement son existence au sein de la société, je voudrais vous poser la question justement au Lionel Proutot. Donc, je le disais en début d'émission, vous êtes professeur d'économie maître de conférence à l'Université de Nantes et spécialiste du monde associatif. Cette notion de valeur travail, dans notre société, on sait très bien quand même que quand on ne travaille pas, ou au moins quand on n'a pas d'emploi, on n'est pas vraiment reconnu dans la société. Est-ce que si tout le monde a un revenu, comment on fait pour vraiment être intégré dans la société si on est tous sur un même pied d'égalité?
Alors, ce qui est évident, c'est qu'effectivement, l'activité professionnelle, le travail au sens étroit, car je suis d'accord avec
Rémi Segret,
c'est cela, il n'y a pas... Le travail peut prendre plusieurs formes. Mais l'activité professionnelle, le travail au sens restreint du terme, est un moyen majeur d'intégration sociale aujourd'hui. Et si on peut en effet penser qu'il faut développer d'autres modes d'intégration, je n'en continue pas moins à penser que l'activité professionnelle restera encore un support, un vecteur d'intégration non négligeable. La société.
Parce que, oui, allez-y, excusez-moi, continuez, j'avais beaucoup plus la parole.
Ouais, allez-y.
Parce que justement, si on a un revenu de base, on peut ou pas continuer à occuper son emploi, mais derrière, en termes d'intégration dans la société, comment ça peut se passer? On voit que l'emploi aujourd'hui, la situation de l'emploi, on est très loin des notions de plein emploi, de précarité, on parle de souffrance au travail, de burn-out, etc., les entreprises qui licencient. Est-ce que le travail est toujours un facteur d'intégration majeur? Est-ce que le fait qu'il y ait un revenu de base, ça va pas remettre en question cette valeur travail finalement?
Alors écoutez, il ne me revient pas de me prononcer sur la pertinence de cette perspective du revenu de base. On peut avoir chacun son idée, mais ce n'est pas là-dessus que je souhaite intervenir. Je voudrais dire que la question que vous posez ne peut se poser véritablement que si ce revenu de base est d'un niveau suffisant pour permettre... aux gens de vivre sans tirer un revenu d'une activité professionnelle. Ça suppose déjà un niveau du revenu de base assez conséquent. Et là, inévitablement, se pose la question du financement.
On va y revenir dans quelques minutes, on y arrivera.
Mais la question qu'il faut plutôt se poser, c'est est-ce que cette situation hypothétique de personnes ayant les moyens de subvenir à leurs besoins sans activité professionnelle, est-ce que donc, dans cette situation hypothétique, on peut s'attendre à un surcroît de participation collective?
Bah oui, a priori, on peut se poser la question.
C'est la question qui, effectivement, peut se poser. Et je dois vous avouer que je serai très, très prudent quant à la réponse à avancer.
Je voulais dire que le découplage emploi et revenu, il existe déjà. C'est pas une chose nouvelle en soi.
Le découplage emploi et revenu. Ouais.
Les intermittents du spectacle, par exemple, les retraites.
Une partie importante du revenu, aujourd'hui, du revenu national, est socialisée.
Oui, 30% je crois en France et 41% en Allemagne par exemple.
C'est
le chiffre que j'ai trouvé.
Plus du tiers des revenus en France sont effectivement socialisés. Mais ça correspond aux prestations sociales. Bien, donc la question elle est là. Est-ce que l'on peut attendre un regain de participation associative, par exemple, d'engagement bénévole, dès lors que les personnes pourraient avoir davantage de temps libre. Je dis, c'est possible, mais il faut être très prudent sur les anticipations que l'on peut faire. Parce que, d'une part, je ne trahirai pas, je pense, la pensée des personnes présentes ici, défenseurs du revenu de base, que de dire qu'ils le conçoivent comme une véritable révolution. C'est un bouleversement, en tous les cas, à la fois économique, social et culturel. Il est très difficile d'anticiper sur ce que peut être la vie en société avec un tel bouleversement. Mais par ailleurs, il faut bien prendre conscience aussi que ce n'est pas seulement le temps libre qui fait l'engagement. Et je dirais même que le temps libre, s'il n'est pas complètement négligeable eu égard aux considérations qui président l'engagement, n'est probablement pas le facteur déterminant.
Il y a les 35 heures hein, qui ont dégagé du temps libre. Est-ce que là, selon ce que vous pouvez observer, on a pu constater un engagement qui s'est accru parce que le temps était dégagé par cette loi Aubry?
Alors, avec un collègue de l'Université de Nantes, il y a quelques années de ça, une dizaine d'années, on a étudié les effets sur la participation associative du passage aux 35 heures, les lois Aubry. Alors certes, notre travail ne portait que quelques années après le vote de ces lois. Donc on peut toujours dire qu'on manque du recul suffisant. Toutefois, ce qu'on a pu observer, c'est que le passage aux 35 heures n'avait pas significativement développé la participation associative des salariés, mais que les salariés qui participaient déjà avaient tendance à participer davantage. Autrement dit, tout cela reste bien sûr à confirmer, mais davantage de temps libre ne conduit pas mécaniquement les gens qui n'étaient pas engagés à s'engager. Par contre, celles et ceux qui le sont déjà peuvent le faire davantage. Et permettez-moi de dire un mot, c'est un peu la même chose pour le passage à la retraite. On entend souvent dire les nouveaux retraités deviennent massivement bénévoles ou constituent les gros effectifs de bénévoles. Bon, d'abord, les retraités sont minoritaires parmi les bénévoles. Ils représentent une ressource bénévole très importante pour certains secteurs associatifs, notamment le domaine de l'action humanitaire, caritative, sociale, c'est incontestable. Mais les études qui ont été menées sur le bénévolat des retraités, ces études ont tendance à montrer plutôt que un vieux bénévole, passez-moi l'expression, un bénévole senior, c'est un bénévole qui a vieilli et non pas quelqu'un qui est devenu bénévole parce qu'il n'est pas certain. Alors, il y a bien sûr des exceptions. On connaît tous autour de nous des gens qui sont devenus bénévoles parce qu'il fallait...
Mais vous parlez de tendance lourde. Là,
mais c'est la tendance lourde. Ça semble être plutôt ce processus.
Rémi Segret, là, c'est un argument qui est balayé par la démonstration... faite par Lionel Proutot. C'est souvent on entend, oui, ça va dégager, on va être plus citoyen parce que le temps dégagé va... Mais on sent que c'est pas aussi simple que ça, finalement.
Oui, non, parce que là, l'étude porte sur les 35 heures. Donc, en fait, on ne casse pas grand-chose, on libère juste un petit peu de temps. Mais bon, voilà. L'intérêt du revenu de base, justement, c'est que, justement, il est révolutionnaire parce que aujourd'hui, dans cette société... en fait, soit on exerce une activité qui est légitime, comme l'explique Christine Boutin d'ailleurs, qui est en fait est une activité qu'on exerce contre rémunération, donc un emploi qui est voilà légitime, soit l'activité bénévole n'est pas considérée comme légitime. Et on est dans une société, les enfants naissent dans une société où tout est construit sur ce rapport binaire, et le revenu de base casse ce rapport binaire en fait. On est dans une société où on se dit voilà, l'existence est assurée, donc après fais ce que tu veux de ta vie, soit tu cherches un emploi, soit voilà tu peux faire de l'activité bénévole. Donc je pense que voilà, c'est l'enquête de notre professeur pour moi n'a rien à voir en fait du coup avec ce que pourrait être une société avec un revenu de base. Et puis des fois on entend quand on parle du revenu de base que les gens feraient plus rien en fait. Genre voilà, si on met un revenu de base en place, plus personne ne ferait rien. Alors donc déjà, ça repose sur la possibilité d'une existence à ne rien faire. Alors déjà rien faire, je vois même pas ce que c'est possible en fait, une espèce de néant d'activité qui n'existe pas. De toute façon, dans nos journées, on fait des choses. Ça veut dire qu'au-delà de l'emploi, toutes les activités qu'on fait au-delà de l'emploi, c'est rien quoi. Faire la cuisine, c'est rien. C'est voilà. Et donc je pense que ça repose vraiment sur un mythe qui dirait que finalement, quelqu'un qui naît avec un revenu de base, de sa naissance à sa mort, ne ferait rien. Et c'est une vision de l'être humain qui me fait peur, et je n'y crois absolument pas. Donc vraiment, elle repose sur un mythe.
Alors ça voudrait dire aussi du coup développer, quand on parlait de l'intégration via le travail, la fameuse valeur travail liée à l'emploi et du coup l'insertion sociale, ça voudrait dire en parallèle d'un revenu de base, développer tous les autres facteurs d'intégration type association, parti politique et autres. C'est ça que ça voudrait dire, trouver d'autres outils pour favoriser l'intégration.
C'est ça, mais je pense que les gens le feraient de même en fait, parce que l'emploi, il permet aussi aux gens d'être reconnus dans la société. Et en fait, à partir du moment où ils ont un revenu de base, ils peuvent rechercher cette reconnaissance sociale au-delà donc de l'emploi. Et du coup, voilà, de vouloir monter des associations, des activités. Là, on est en lien avec l'économie sociale et solidaire. Voilà, ils peuvent aller militer contre un aéroport complètement inutile.
Ça s'est glissé en passant. Allez hop.
Voilà. Ils peuvent faire vraiment, ça libère en fait. Pour moi, le revenu de base, c'est un facteur d'émancipation humaine et c'est ça qui m'intéresse.
Juste, on est bien d'accord pour dire qu'il y a deux tendances du revenu de base. Il y a la tendance libérale, je vais un peu catégoriser, mais pour qu'on comprenne bien, l'option libérale, ce serait un revenu, mais qui ne serait pas suffisant pour se passer d'emploi. Et le paradigme que vous défendez, c'est un revenu minimum de base inconditionnel suffisant pour se passer d'emploi ou pas.
Exactement. En fait, mais je dirais même que le revenu de base porté par les néolibéraux n'est pas un revenu de base. Enfin, nous, on n'est pas du tout là-dedans. Et je pense qu'il ne faut même pas parler d'un revenu de base, en fait. Nous, on les écoute, mais ils ne sont vraiment pas avec nous, quoi. Il n'y a aucun néolibéral dans le mouvement français pour un revenu de base.
Alors, on parlait un peu de faire une révolution. Ce que vous disiez, c'est les gens peuvent s'impliquer dans les associations et autres, mais est-ce que les gens le veulent et le pourront effectivement? Ce que vous disiez, Lionel Proutot, tout à l'heure, c'est que les personnes qui s'impliquent, ok, c'est à l'échelle des 35 heures, etc., mais c'est que c'est finalement les gens déjà impliqués qui ont l'éducation, l'argent, le temps, la culture, qui s'impliqueraient plus. Est-ce que Lionel Proutot a un revenu de base, même si on peut, on a le temps, est-ce que avoir le temps et un minimum d'argent garantit plus ou moins une véritable implication derrière? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses à changer derrière, l'éducation par exemple?
Alors, écoutez, ce que l'on sait aujourd'hui de la participation bénévole montre que pour s'engager, il faut en avoir les moyens. On y reviendra rapidement.
Un problème de moins avec le revenu de base.
En avoir les dispositions, c'est-à-dire le désir, et en avoir l'occasion, l'opportunité.
Un problème de moins avec le temps libre.
Alors, en avoir les moyens. L'engagement bénévole mobilise des ressources. Des ressources en temps. Donc, effectivement... Si quelqu'un travaille 20 heures par jour, son temps, ce travail dans son activité professionnelle, prenons une illustration caricaturale, bon, évidemment, là, il aura peu de temps à dégager pour le bénévolat. Mais le temps libre n'est qu'une ressource parmi d'autres. Et ce ne sont pas nécessairement, d'ailleurs, les salariés dont les temps de travail sont les moins longs qui sont les moins engagés. Mais cela... ressources économiques. Le bénévolat, ça expose à des frais.
Lesquels?
Eh bien, par exemple, frais de transport, frais de garde d'enfants lorsque on a des enfants. Et puis, le bénévole, il peut aussi payer de sa poche un certain nombre d'activités dans le cadre associatif.
Et puis, il paye son adhésion à l'association.
Alors, oui, bien sûr, mais comme tout adhérent. Exactement. Et tous les bénévoles ne sont pas forcément adhérents. Troisième ressource importante, ressource culturelle. Savez-vous que le facteur le plus discriminant sur l'engagement, c'est le capital scolaire, le niveau d'éducation. Parce que l'engagement bénévole mobilise aussi une certaine confiance, exige, requiert une certaine confiance en soi et mobilise certaines compétences. Donc, il faut en avoir les ressources. Deux, les dispositions. Il faut le vouloir. Il faut être incliné à faire le bénévolat. Moi, je ne porte aucun jugement de valeur. Hein, mais après tout, on peut très bien avoir d'autres types de dispositions. Jouer de la guitare, c'est pas faire du bénévolat. C'est pas du travail bénévole. C'est tout à fait honorable. Tout à fait honorable. On ne voit pas au nom de quoi on porterait un jugement de valeur. Mais il y a des gens qui préféreront jouer de la guitare plutôt que de s'engager. Il faut avoir des dispositions. Enfin, il faut en avoir l'opportunité. Il faut bien voir que dans un très grand nombre de cas, on ne devient pas bénévole comme ça du jour au lendemain parce que le matin, on se lève en disant « Tiens, je vais être bénévole ». C'est parce qu'on est sollicité. C'est parce qu'on appartient à des réseaux. Des réseaux qui vont solliciter, qui vont nous solliciter. Des collègues de travail, des amis de quartier, des parents d'enfants avec lesquels nos propres enfants jouent, etc. Voilà c'est les conditions qui, aujourd'hui, expliquent l'engagement. De ce point de vue, on voit bien que l'augmentation du temps libre n'est qu'un facteur parmi d'autres et, à mon avis, pas le plus important.
C'était Lionel Proutot qui s'exprimait, l'un de nos trois invités. Lionel Proutot, je rappelle que vous êtes professeur, maître de conférence à l'Université de Nantes, là j'ai raison, spécialisé dans la participation associative. Rémi Segré du collectif nantais du mouvement français pour un revenu de base et Romain Gilbert, candidat sur la liste Europe Écologie Les Verts aux élections municipales de Bouguenais, très intéressé par ces questions. L'émission c'est comment vont les fourmis. Aujourd'hui, on aborde la question du revenu inconditionnel de base. Un revenu pour tous de la naissance à la mort, point d'interrogation. On va s'écouter un peu de musique. Alors, c'est un peu décalé. C'est une formation qu'on aime bien, Sexy Sushi. Ça s'appelle « Je refuse de travailler ». Prenez le pas au pied de la lettre. C'est vraiment...
Ça pourrait être possible avec un revenu de base.
Exactement. On écoute Sexy Sushi.
Et pour faire quoi ?
Thank you.
Vous êtes toujours sur Jet FM, on vient d'écouter Sexy Sushi. Je refuse de travailler, ça tombe bien. On est dans l'émission Comment volent les fourmis. Et on parle du revenu de base, de la naissance à la mort, point d'interrogation. Et cette question, refuser justement de travailler, si tout le monde a un revenu de base suffisant, on peut refuser de travailler. Et du coup, se pose la question, tous les sales boulots, justement, qui va les faire, ces sales boulots mal payés, mauvaises conditions de travail, peu reconnus, peu valorisés dans la société. On peut penser les poubelles, caissières, par exemple. Rémi Segret du collectif nantais du mouvement français pour un revenu de base, qui va faire le sale boulot avec un revenu de base?
Alors, justement, vos deux exemples sont super intéressants. Donc, en fait, il y a plusieurs réponses à ça. Et donc, il y a un documentaire que vous pouvez tous retrouver sur YouTube sur le revenu de base qui a été fait par les Suisses allemands lorsqu'ils ont dû justement proposer un référendum sur la question. Quand la question est posée, on voit à ce moment-là un camion poubelle venir et prendre une poubelle et le mettre dans son camion juste avec la mécanisation. Et quand vous parliez des caissières aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de caisses automatiques qui sont mises en place.
Comment s'appelle ce documentaire?
Il s'appelle il n'y a pas de nom, c'est
il
le revenu de base.
Il s'appelle le revenu de base.
D'accord.
Voilà, on le trouve sur internet très facilement.
Ils se sont pas foulés. Mais et donc voilà, en fait, c'est vrai que justement dans cette espèce d'idéologie, d'espèce de religion de l'emploi où il faut absolument de l'emploi, voilà, on en arrive à des fois des personnes qui disent moi je veux absolument passer dans une caisse où il y a une caissière parce que voilà, sinon ça va lui enlever son boulot. Mais finalement, on se demande même pas si cette caissière elle aura peut-être envie de faire autre chose de sa vie et que normalement passer dans une caisse automatique, ça peut être une solution. Et donc voilà, donc la question de la technisation, c'est clair que c'est une réponse de ces sales boulots. Après, vous parliez de mauvaises conditions de travail. Bon, dès qu'on a un revenu de base, on a aussi un autre rapport de force avec l'employeur, parce qu'au bout d'un moment aussi, on peut complètement faire une grève générale quand on veut, puisque on a aussi un revenu de base pour vivre, et du coup augmenter ce rapport de force. Et en fait, donc je pense que les conditions de travail changeraient. Et puis si ces boulots doivent toujours être faits, les employeurs, il faudra tout simplement qu'ils augmentent le salaire pour attirer des gens pour venir les faire, quoi. Si, imaginez si vous deviez, mettons justement, ramasser les poubelles et que vous êtes payé 5000 euros pour le faire, même en une semaine, c'est génial, quoi.
Alors, Lionel Proutot, vous vouliez justement réagir.
Sur le fond, puisque j'ai dit que je n'interviendrai pas sur le fond de cette perspective, mais un mot pour dire que la mécanisation du travail de caissière, attention, parce que la mécanisation d'un certain nombre de tâches, et notamment de relations clientèle, elle est déjà fort avancée. Il suffit de téléphoner pour un renseignement auprès de certaines entreprises, que ce soit le prestataire téléphonique, prestataire, vous tapez sur la touche Giro pour, et vous n'avez plus... Jamais personne au bout du fil. La caissière, c'est aussi un vecteur de sociabilité au quotidien. Il ne faut pas le négliger.
Pour combien de temps, c'est la question, parce que là,
pour combien de temps? Mais justement, le risque, c'est effectivement avec les tendances à l'œuvre, de conduire effectivement à une robotisation croissante d'un certain nombre de tâches et de cette perte d'une dimension de sociabilité qui peut être très importante en matière de sociabilité de proximité. Mais, il n'est qu'à voir les personnes âgées. Une personne âgée, la seule sortie qu'elle fait dans la journée, c'est au supermarché. Passez-moi l'expression un peu triviale, elle va tailler le bout de gras avec la caissière. S'il n'y a plus de caissière, elle ne taillera pas le bout de gras.
Alors Rémi Segret, ça vous fait réagir,
ça? Oui, évidemment. Cette personne âgée qui n'aura plus ce rapport de sociabilité avec cette caissière, mais peut-être que cette caissière, elle sera dans une association pour aller voir les personnes âgées au quotidien. Et du coup, le revenu de base, en favorisant l'associatif, le militantisme, on favorise le lien social. Et du coup, on n'aura plus ce triste individualisme de l'emploi où justement on devra aller chercher le lien social à travers le regard d'une caissière, alors qu'on pourra l'avoir par des assos qui seraient partout. Et du coup, pour moi, c'est complètement faux débat.
Romain Gilbert.
Oui, justement, dans le film qui a été fait, il y a une interview d'une caissière, parce qu'il y a une passante qui pose cette question justement par rapport à la caissière qui...
Est-ce qu'elle quitterait son travail avec un revenu de base? Elle répond non,
et que justement, pour elle, c'était justement, il y avait ce sens du contact. Bon, après, est-ce qu'elle représente l'ensemble des caissières? On peut se poser la question. Ouais. Mais elle répond non, et que pour elle, de toute façon, elle a besoin d'exercer une activité et qu'elle ne se voit pas rester à la maison pendant toute la journée. D'ailleurs, là-dessus, quand on demande aux personnes qu'est-ce que vous ferez. Donc 60% disent qu'ils continueront à travailler, 30% disent qu'ils continueront, mais peut-être moins, peut-être autre chose. Et il y a seulement 10% qui ne feront, qui disent bon, bah, je resterai chez moi dormir. Et en bas encore, ils iront sûrement faire d'autres activités, comme disait Rémi tout à l'heure. Et quand on pose la question inverse, et qu'est-ce que vous pensez ce que vont faire les autres? Là, c'est 80% des gens qui disent ah bah les autres ils feront rien. Donc c'est un peu bizarre quand même. Voilà, c'est assez contradictoire en ce que les gens pensent des autres et ce que eux feront, quoi.
Un point sur lequel je voulais revenir rapidement, cette question-là des sales boulots et finalement pourquoi pas amener de la mécanisation et de la robotisation. Romain Gilbert, Europe Écologie Les Verts, je me dis une société avec des robots partout pour que plus personne ne fasse le sale boulot, c'est une sacrée vision de la société aussi. Cette notion de la mécanisation, vous l'apportez?
La mécanisation, elle peut être utile pour faire justement des sales boulots, des tâches répétitives. Puis de toute façon, pour construire les robots, il faudra de toute façon du monde. Il faudra des compétences, il faudra des personnes qui... nous, au Repocologie, chez les écolos, on n'est pas du tout contre le progrès technique. Mais là, le problème aussi, c'est que le progrès technique, il y a un progrès technique. Mais d'un autre côté, il n'y a plus aucun progrès social, quoi. Là, on est dans une société où il y a une concurrence impressionnante entre les personnes qui veulent trouver le travail, de plus en plus rare. Donc la concurrence entre ces personnes fait que ça casse le lien social. Donc il faut du progrès technologique, mais il faut garder...
En lien avec le lien social. Il ne faut pas déshumaniser les sociétés avec une mécanisation de robots, quoi. Enfin, avec une société de robots, pardon. Oui, vous voulez réagir, Rémi Segrè?
Oui, si, je pense qu'il faut se poser la question. C'est quoi c'est cette question de sale boulot, en fait? Je pense que...
Formule est entre guillemets, je tiens à le préciser.
Oui, mais je pense qu'en fait, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, finalement. Peut-être que c'est justement, si on a un revenu de base et qu'on remet en cause l'emploi, on pourra peut-être aussi faire ces activités-là d'une autre manière, qui font qu'au bout d'un moment, ce ne sera pas un sale boulot. On pourra en parler des poubelles, on peut aussi réfléchir à notre consommation de manière complètement différente. Justement, favoriser des associations qui vont militer pour moins de déchets, pour une collectivisation. Il y a plein de réflexions comme ça à avoir. Cette caissière qui... On pense que caissière, c'est un sale boulot. Si peut-être qu'elle est caissière dans une grande enseigne, mais si on devient caissière dans un petit truc beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus humain. Donc je pense qu'il faut vraiment se poser la question aussi de ces sales boulots. Et s'ils n'existent plus, peut-être que c'est mieux et qu'il y a d'autres manières de traiter ces activités.
Alors, on voit bien qu'il y a beaucoup de... tous les effets que pourrait créer un revenu de base, et évidemment, on est dans de la fiction. Mais une question qui reste encore fictionnelle aussi, c'est d'où on les sort, ces 1000 euros, le financement, on sort ça de notre chapeau. Je ne sais pas si vous savez, c'est la crise. Le Premier ministre a annoncé pas mal de coupes budgétaires.
Moi, si j'ai bien compris, pour financer, on arrête toutes les prestations, toutes les... La multiplicité, la diversité des prestations,
des aides sociales,
des aides sociales, on n'en parle plus. Et là, on dégage des sous pour abonder le revenu de base, la taxation des transactions financières, choses comme ça. On impose plus les hauts revenus, les produits de luxe. J'ai envie de poser la question à Lionel Proutot. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes. Est-ce que je sais pas, d'où vous parlez, vous avez une vision de ce que pourrait être un financement? Est-ce que ça, c'est complètement utopique? On voit bien que la question de la taxation des transactions financières, il y a longtemps qu'attaque, Tobin et compagnie essaient de le faire, qu'on doit tordre le cou à la finance, je fais référence à personne, et puis finalement, rien ne bouge. Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de totalement irréalisable? C'est une question, d'ailleurs, que je peux poser à nos trois invités.
Oui, je préférais que vous la posiez d'abord aux défenseurs de cette perspective. Que ce que je ne suis pas, je ne suis pas non plus un critique forcené, mais ceci étant, ce qui me semble clair, c'est que prétendre assurer un revenu de base d'au minimum 1000 euros, puisque c'est bien un minimum, puisque en fait c'est 1000 plus 950, c'est-à-dire le seuil de pauvreté pour une personne seule, hein. 950 euros, c'est le seuil de pauvreté pour une personne seule. Vous multipliez par 66 millions. Si c'est 2 zéros...
Ça fait combien, Julie?
Mettons 1000 euros par 66 millions. Je vois mal, très mal, comment la question de la réorganisation totale de la protection sociale peut être évité dans ces circonstances.
C'est une question fondamentale quand même. Comment on finance ça ? C'est-à-dire que l'idée, elle est humaniste, j'allais dire, elle est universelle, elle est séduisante. Mais alors, répondre à cette question, c'est compliqué. Hein. Je le conçois dès que je pose cette question-là. Comment on met ça en œuvre ? Est-ce que c'est possible ? C'est une question de fond, j'ai l'impression.
Oui, alors déjà, il faut expliquer qu'au mouvement français pour un revenu de base, on ne se positionne pas sur comment le financer, en fait. Nous, notre but...
C'est-à-dire que vous ne mouillez pas, quoi. Vous ne mettez pas un mode d'emploi au gouvernement
Oui, justement, parce qu'en fait, il y a plein de possibilités pour mettre en place un revenu de base. Et parce que là, on pense tout de suite à... le gouvernement est élu et il met en place, mais ce n'est pas forcément comme ça que ça pourrait se passer.
Donc, il n'y a pas eu de modélisation économique du tout.
Comment ?
Il n'y a pas eu de modélisation économique.
Non, nous en fait on est juste là pour porter l'idée et donc nous dans notre discours c'est la communauté politique qui décide de mettre en place un revenu de base.
Communauté politique, c'est-à-dire les élus, les gens qui sont au pouvoir, je sais pas.
Pas forcément. Non. La communauté politique qui décide de mettre en place un revenu de base décide démocratiquement de son montant et aussi de son financement. Mais du coup nous on pense tout de suite à la France, les Français, mais ça pourrait très bien être les Européens, ça pourrait très bien être mondial, mais bon ça sera peut-être un peu plus difficile. Mais du coup on peut justement quand on parle du financement, ça pourrait très bien être aussi une ville au niveau des citoyens avec une monnaie complémentaire. Donc on voit à Toulouse, il y a le sol violette qui marche très bien. Donc ça peut être une communauté politique des Toulousains qui d'un coup touchent un revenu de base parce que ils ont décidé de le verser en monnaie complémentaire. Donc là, c'est un possible financement.
Après, moi, j'ai l'impression que les contours sont un peu flous quand même. C'est-à-dire, sans modélisation précise, sans scénario établi. Alors, je regarde encore Monsieur Proutot, qui est maître de conférence en économie. Comment c'est possible ? C'est une question essentielle qui va de la crédibilité de la démarche. J'ai envie de faire tourner la parole et m'adresser à Romain Gilbert là-dessus. Je vous titille un peu, mais c'est aussi mon rôle. Et comment on fait concrètement ? Est-ce qu'on a un modèle ?
Donc effectivement, dans un premier lieu, il y a tout ce qui est simplification administrative. Ça coûte un argent monstre de tout contrôler, savoir si quelqu'un a le droit à telle allocation. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Et donc déjà par rapport à ça, je crois qu'il y a quand même des études qui ont été faites qu'on pouvait donner 600 euros par adulte et 300 euros par enfant. Donc déjà... ça fait une bonne partie de la part à financer. Ensuite, après, je ne suis pas un spécialiste, mais je me renseigne. Hein. D'ailleurs, pour revenir, je pense qu'effectivement, même si on n'a pas forcément les compétences pour faire du bénévolat, nous, chez Europe Écologie Les Verts, dans notre groupe local, par exemple, on a mis en place un système de tirage au sort pour que même les adhérents, qui sont généralement en retrait, soient... participe. Et on s'aperçoit très bien que tout le monde peut avoir les compétences, tout le monde peut intervenir. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse.
Oui, sur la question du financement, parce que là on est quand même une bande de doux rêveurs autour d'une
table. Non, mais le financement, faut se reposer la question de ce qu'est l'argent. Parce que là, actuellement, l'argent, encore sur YouTube, il y a un excellent film de l'argent de la dette de Paul Grignon.
Donc l'argent de dette, oui, voilà. C'est ça.
Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est un film absolument à voir. Hein, ça replace le contexte, ce qu'est l'argent. Et l'argent, c'est quoi en fait ? C'est la création de la dette. En fait, le banquier qui va vous prêter de l'argent, il n'a pas cet argent. C'est une promesse de remboursement. C'est par rapport à la confiance et l'argent qui il l'a créé. Hein, l'argent, la banque crée l'argent qu'il vous prête. Tout ça parce que il y a une hypothèque derrière et il va vous rembourser. Et actuellement, en fait, la création monétaire est donnée aux banques. Alors l'État, c'est complètement un peu fou, quoi. L'État, c'est lui qui possède les valeurs de la communauté. L'État demande aux banques de créer de l'argent et les banques créent de l'argent et prêtent aux États avec des intérêts. Donc là, c'est un système qui marche un peu sur la tête, quoi. Donc à la fin, en fait, c'est les prêteurs vont se retrouver avec ceux qui vont posséder tous les biens. Donc il y a aussi cette question, c'est assez complexe, moi je suis pas spécialiste là-dessus, mais la création monétaire, c'est une possibilité de donner un revenu à tous.
Rémi Segret, vous vouliez réagir ?
Oui, non, mais juste pour dire que c'est le capitalisme qui nous coûte cher, c'est pas les prestations sociales. Les prestations sociales, pour moi, ça va de soi. Quand on voit des entreprises faire des milliards de bénéfices par an, pour moi, l'argent, il est tout simplement là. Il suffit. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, le revenu de base, c'est qu'au-delà de se poser la question, c'est quoi l'emploi ? C'est aussi une redéfinition, un repartage des richesses. tout simplement.
Alors là-dessus, j'irai même un peu plus loin. Je citerai Bernard Friot, qui est très impliqué sur cette question-là du revenu de base, qui dit quand même que le revenu de base est finalement la roue de secours du capitalisme. On met juste un petit sparadrap pour donner un peu d'argent à tout le monde et acheter la paix sociale. Vous êtes d'accord avec ça?
Non. Alors Bernard Friot, lui, il propose le salaire à vie. Donc c'est pas
encore une autre formule, un autre concept.
Voilà, c'est vraiment une autre formule. Lui, ce que justement là, ce qui est important de dire avec le revenu de base, c'est que c'est pas une fin, c'est pas un projet de société, c'est un moyen, c'est juste un outil d'émancipation. Ça permet après justement de se saisir de ce qu'on veut de la société. Ça replace de la démocratie au-delà du vote, comme le veut Dominique Villepin. Ça remet de la démocratie partout parce que ça nous libère du temps aussi pour voilà, pour militer. Donc pour moi, la démocratie, c'est le militantisme. Et donc voilà, c'est un moyen. Donc bon, après, ce que propose Bernard Friot, lui, j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup plus une fin. Voilà, c'est complètement ancré politiquement. Moi, c'est des idées que j'aime bien, mais je trouve que finalement, le revenu de base perd de sa force. Parce que en proposant quelque chose de très, comme le fait Bernard Friot, de tellement carré et tellement... on a l'impression que...
Dogmatique un peu.
Oui, voilà, on a l'impression qu'en fait, c'est une plaquette qu'on n'a plus qu'à mettre sur la société et pouf, ça a marché comme ça. J'y crois pas du tout. Et honnêtement, voilà.
Il y a un petit aspect que j'aurais aimé aborder avant la fin de cette émission. C'est, on a parlé de cette notion de revenu de base, mais aussi la formule utilisée de droit d'usage, c'est-à-dire qu'au lieu simplement de recevoir de l'argent, c'est aussi d'avoir un accès gratuit à tout ce qui relève du service public, hôpital, école et ainsi de suite. Est-ce que c'est aussi, ça va avec le revenu de base, Rémi Segret?
Oui, complètement en fait. Même on pourrait dire qu'à la base, notre idée... au-delà d'un revenu de base, ce serait une gratuité pour tous. Nous, on serait vraiment pour une gratuité pour tous, ce serait génial. Après, on pense que finalement, dans une société où l'argent a pris autant de place et où finalement ça peut être un moyen de médiation assez utile, donner un revenu de base, c'est finalement répondre à cette question de gratuité pour tous.
Donc c'est, si plus de choses sont gratuites, on a moins besoin de revenus, c'est bien ça le...
Oui, bien sûr. Bah, si se vêtir, si se loger devient gratuit, par exemple, si manger devient gratuit parce que normalement on collectivise tout simplement voilà, l'agriculture et tout, effectivement. Mais c'est un peu aussi l'idée du revenu de base, c'est aussi peut-être...
C'est communiste.
C'est Thalie qui a dit ça dans une émission.
Moi je pense que c'est anarchiste.
C'est celle avec Bernard Friot, oui, il a traité de communiste.
Parce que Bernard Friot est communiste et son projet, lui, est beaucoup plus communiste. Moi je pense que le concept de revenu de base est anarchiste, mais j'espère que ce mot fera pas peur à beaucoup de gens. Mais
l'anarchie, c'est bien, non, faut relire Bakounine.
Oui.
Ouais, je pense qu'il il faut garder effectivement une part de... En fait, c'est des dons en nature, hein, parce qu'on, voilà, tout ce qui est gratuit, la sécurité sociale et tout. Mais moi, ce qui est très important, c'est le revenu de base. Donc c'est du cash pour moi, et pour ce que Europe Écologie est assez impliqué là-dessus. Et c'est la liberté individuelle de chacun, en fait. Le cash, donner du cash à quelqu'un, c'est lui donner une certaine liberté.
Moi, je vais être cash là. Je veux dire que moi, je suis pas convaincu sur l'aspect financement par vos arguments. Ouais, je demande comment le montage financier est possible.
Très clair tout ça.
Il y a
même,
pas de scénario très clair là-dessus. L'idée, elle est très séduisante. Elle est sans doute peut-être sa vertu telle que je la vois, c'est peut-être de se poser la question d'un autre modèle de société. Mais je trouve que ça pêche un petit peu d'étayage financier concret qui permette de se projeter vraiment, même si j'ai bien compris qu'il y avait une réflexion collective politique et tout ça. Mais je suis pas convaincu.
C'est pas à nous de fournir en fait cette réponse.
Mais non, mais parce qu'en fait, pour être crédible, il faut quand même
avoir des idées. Voilà, il y a un groupe de travail qui au sein de l'association qui va travailler sur une plaquette justement de possibilités de financement qu'on pourra justement présenter voilà de six possibilités de financement. Mais encore une fois, on peut pas
si le revenu de base. Ouais, quand même.
Ouais, plus voilà, mais encore une fois, si le revenu de base c'est des monnaies complémentaires à Toulouse, si c'est le revenu de base c'est un revenu de base français, s'il est régional, si il est européen,
1000 euros minimum, ça fait des
mais,
sous.
Mais vous comprenez bien qu'on peut pas se positionner sur un type de financement parce que en fait nous on est là vraiment pour porter l'idée, on peut pas, ce serait beaucoup trop concret. Nous mais la concrétisation elle viendra avec les gens qui vont se saisir de l'idée. Après concrètement ils le mettent en place et ils se décident sur un financement.
Lionel Proutot.
Oui, ce serait une question. Alors,
pour une autre émission.
Éventuellement. Mais parce que je reste quand même dubitatif sur le fait que les réflexions sur le financement ne vous semblent pas indispensables. Parce qu'il y a un certain nombre de promoteurs d'un revenu universel. Je pense par exemple à Van Parijs, philosophe et économiste, qui
à travailler sur ces scénarios possibles. Qu'est-ce que vous pensez des propositions de Van Parijs, de la réflexion de Van Parijs sur le revenu universel?
La connaissez-vous?
Non, non.
Non, moi, je ne la connais pas. Mais moi, je pense qu'au niveau financement, là, on réfléchit un peu dans notre logiciel dans lequel on est actuellement. Le revenu de base, c'est autre chose. Donc, il faut penser, c'est un peu l'inconnu, c'est vrai. Donc, le revenu de base, c'est un changement de logiciel. Et comme je disais tout à l'heure, la création monétaire, pourquoi la laisser aux banques, quoi? C'est, si la création monétaire, c'est les États et qui décident de faire et de donner à tout le monde, c'est possible. Mais il faut penser autrement. Voilà.
Vous voulez justement... Non.
Non, non, je suis complètement d'accord avec...
Excusez-moi, j'ai cru vous voir un doigt pointé pour réagir.
Je pense que le revenu de base perdrait de sa force si justement on proposait un financement pour nous. Parce qu'il
ne poserait plus de questions.
Non, non, parce que justement, voilà, les gens doivent se saisir de l'idée et à ce moment-là, on verra bien. En fait, comme dit Romain, on n'est pas en train de penser quelque chose qui va être plaqué sur notre société, mais quelque chose qui c'est une pensée dynamique qu'il faut mettre en place.
Eh bien, on suivra l'affaire, évidemment, Julie. On se quitte, tiens, avec Ensemble Économique, je crois que c'est son nom. C'est, les propositions musicales sont signées Henri Landré de JTFM.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Il y avait autour de la table Lionel Proutot, Romain Gilbert et Rémi Segret sur cette question du revenu de base. Et on l'a compris, c'est beaucoup de questions et pour le moment, pas forcément beaucoup de réponses. Bonne réflexion, bon appétit.
Et merci Anne-Laure pour la réalisation. Au revoir.
Merci à tous.